la parole de la vérité. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Il n'y a personne qui veut faire ça. Ça va totalement à l'encontre de la nature humaine. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle d'un frère, qui parle mal d'un frère, et qui juge son frère, parle mal de la loi. Il juge la loi. Non, c'est quelque chose d'intéressant. Essayons de comprendre cela. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Autrement dit, si vous tournez vers les autres gens et vous dites, « Ah, tu es en train de violer ou d'aller contre cette loi-ci. » Voilà comment on peut devenir le juge de la loi. Autrement dit, vous faites passer un commandement avant un autre commandement en faisant cela. C'est la raison pour laquelle le chapitre 2, au verset 10 et 12, dit, « Si vous brisez une seule loi, vous êtes coupable de toutes. » Si vous commencez à faire une certaine distinction parmi les lois dans l'Église de Dieu, que vous croyez que certaines personnes n'observent pas aussi bien que vous, alors à ce moment-là, vous devenez juge de la loi. Bien entendu, nous devons tous obéir à la loi. Et si nous voyons quelqu'un d'autre, hein, un ou l'autre, se tomber dans le péché, je vous demande d'attendre jusqu'à la fin du sermon quand même. Mais si nous voyons quelqu'un faire cela, oui, nous sommes le gardien de notre frère. Je le répète, attendons quand même à la fin du sermon, je vais clore le sermon avec cette idée-là. Verset 12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Autrement dit, tout le monde a des plans. Vous avez des plans, j'ai des plans. Tout le monde a des plans. Le monde a des plans. Mais soyez prudents. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Autrement dit, faites attention aux plans que vous avez. Faites un pas en arrière, mon nez. Mettez ça en perspective. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Vous vous rappelez ce que c'est qu'on a dit à propos de l'herbe? Une vapeur qui disparaît, comme ça. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous avez déjà regardé la vapeur, par exemple, qui sort de la bouilloire. Vous êtes en train de préparer de l'eau pour le thé. Ça monte 50, 75 cm au-dessus de la bouilloire, puis ça disparaît complètement. Et Dieu nous dit, voilà, c'est ça ta vie. Ça dure un petit bout de temps à la sortie de la bouilloire, puis après ça, c'est fini. On pourrait même dire que le sort ultime de tout être humain, c'est d'être vaporisé. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Quand même, faites attention. Ne dites pas constamment si Dieu le veut. Mon épouse et moi avions été visiter une dame âgée il y a plusieurs années, en fait, de cela. Et puis je lui disais, bon, mais bonjour, on se verra au sabbat. Et puis elle me disait, oui, si Dieu le veut. Et j'avais dit, voyons, on ne dit pas ce genre de choses-là. Mais elle dit, regardez, ça le dit, là, ici. Donc, je le dis. Bien sûr, on peut le dire comme c'est dit ici. Mais on ne dit pas ça toujours. C'est pareil comme dire, bon, bien, le dîner va être prêt, si Dieu le veut. Alors, ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire ici. On parle ici des plans de vie, en général. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit constamment à voix haute. Je lui disais, dis-les doucement, tout simplement, en dedans de toi, Lizzy, parce que c'était son nom. Mais je n'ai jamais été capable de la convaincre. J'ai été son pasteur pendant 4 ans. Et je n'ai jamais été capable de la convaincre, de dire, si Dieu le veut, au sujet de sa vie en général. À toutes les fois qu'elle parlait aux gens, il fallait absolument qu'elle dise, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Alors j'étais face à un choix. Soit je la mettais en dehors de l'Église, ou je me disais, mais si Dieu le veut, elle va changer. Et puis elle est demeurée quand même quelques années. Savez-vous quoi? C'est que, éventuellement, elle a tout simplement abandonné, elle a apostasié. Elle a tout simplement abandonné tout ce que c'est qu'elle avait. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était une personne qui n'avait jamais rien réellement compris au sujet des choses spirituelles. Donc, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, les quelques versets suivants parlent encore des riches jusqu'au verset 6. Et je vais donc les sauter et commencer au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Or, quand on lit ça, il n'y a personne qui a lu ce passage-là qui ont attendu jusqu'à la fin de leur vie et qui ont vu l'avènement du Seigneur. Donc, c'était applicable soit parce que vous mourrez, comme Paul en avait déjà dit, vous mourrez et vous êtes avec le Seigneur, parce que vous êtes dans la tombe, et la chose suivante va être avec le Seigneur. Alors, quelques siècles plus tard, vous êtes ressuscité, et vous êtes glorieux dans la première résurrection, ou tout cela s'applique de façon plus spécifique à nous, de notre époque. Donc, je le répète, à nous, frères, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous nous rappelons que la patience est liée également à la foi. Et on sait que le peuple de la sixième ère a gardé la parole de la persévérance aussi. Et c'est aussi écrit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, votre vie. Et puis il aussi dit, voici la persévérance des saints. Vous devez tout simplement continuer à obéir à Dieu et avoir la foi de Jésus. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre pendant tout l'été. Il sait que sa vie en dépend, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Alors, ça fait trois fois là, qu'on voit le mot, là, patient, patience et patient. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, si c'était vrai à cette époque, combien plus à notre époque aujourd'hui? En fait, il y a très, très peu de patience qui est nécessaire maintenant. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, qu'il n'y ait pas de ressentiment. Jamais, de quelque nature que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu va vous condamner, vous juger. Dieu ne retient jamais les péchés contre quelqu'un. Autrement dit, avoir du ressentiment, en vouloir à quelqu'un, c'est la même chose que de manquer de miséricorde. Et Dieu dit, si tu n'as pas de miséricorde, tu n'obtiendras pas de miséricorde, afin que vous ne soyez pas jugés. Et le mot jugé ici, c'est katakrina, qui veut dire condamné, pas seulement jugé. Autrement dit, avoir du ressentiment contre quelqu'un, garder quelque chose contre cette personne, ça veut dire la même chose que celle-ci n'est pas digne d'être pardonné à vos yeux. Et devinez quoi? Alors, Dieu vous dit, si c'est ça, alors c'est vous qui ne serez pas libérés de vos péchés. Encore une fois, c'est toujours quelque chose de bien élémentaire. Voici, le juge est à la porte. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous lui en voulez, vous retenez quelque chose contre lui, réfléchissez et imaginez Dieu sous forme de Jésus-Christ qui est à la porte. Il est proche. Son retour est bientôt. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bienheureux. Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme quelqu'un qui est en train de souffrir patiemment et joyeusement ce à travers quoi vous êtes en train de passer? Vous devriez, parce qu'en fait, vous devriez considérer ça comme un sujet de joie complète lorsque vous faites face à certaines épreuves. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apprendre, pas seulement parce que vous êtes en train d'apprendre la foi et la patience, mais parce que vous apprenez toutes sortes d'autres choses en même temps. Les épreuves permettent d'acquérir de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension. Elles permettent de produire en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Elles nous aident à nous conduire en homme et à être fort. Et bien entendu, cela inclut les femmes lorsque nous parlons de cela ici. Et on poursuit au verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Alors, ça fait la cinquième fois qu'il en parle. Le mot utilisé ici pour patience est « hupomone ». On dirait deux terribles maladies qu'on ne voudrait attraper ni l'une ni l'autre. l'une semble virale puis l'autre bactérienne. Alors, c'est un peu différent, hypomonée, de l'autre mot qui est macrotumia et qui signifie persévérer, mais sous la contrainte, forcer. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 24, il n'est pas écrit « Celui qui sera patient jusqu'à la fin sera sauvé », mais « Celui qui persévérera », celui qui aura une patience sous l'épreuve, sous la force, sous la pression, jusqu'à la fin sera sauvé. Pour revenir à la comparaison, la patience, c'est quelqu'un qui attend à l'arrêt d'autobus, tout simplement, tandis que l'autre, pour persévérer, c'est celui qui attend, là, mais par grand vent ou par grande chaleur ou par froid intense. Alors, il y a quand même une différence entre les deux termes. Donc, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, ceci, c'est Dieu. C'est notre Dieu, nous, et ça devrait nous encourager fortement. Verset 12, maintenant, « Avant toute chose. » Alors, c'est intéressant ici. « Avant toute chose. » On parle ici, entre autres, des choses de cours. « Mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. » Alors, c'était sans doute un des problèmes au premier siècle. Il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait un peu à l'Inquisition qui avait lieu à ce moment-là. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Comme nous l'avons mentionné un peu précédemment, selon la volonté de Dieu. Alors, tout ce que vous avez à dire, c'est oui ou non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors là, maintenant, nous arrivons à quelques derniers vers très puissants, très forts. Alors, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Alors, frères et sœurs, nous sommes une Église qui vieillit. Hein, qui a de plus en plus de cheveux blancs. Et nous avons à traverser des épreuves. C'est le cas de plusieurs. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ont à subir des souffrances. Alors, ce genre de souffrances-là peuvent être émotives, ça peut être un travail, ça peut être la maladie, ou ça peut être encore un peu de, on pourrait dire presque de la persécution dans votre voisinage. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses par lesquelles vous êtes affligés, desquelles vous souffrez. Ça peut avoir affaire avec le genre de travail que vous avez, que vous faites, ou encore, si vous observez le sabbat, vous n'êtes pas capable d'avoir ce travail-là. On répète, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dans l'affliction? Alors, ça peut être quelqu'un, un associé avec vous, qui vous donne du trouble. Marquez qu'il prie. Êtes-vous dans la souffrance? Priez. Quelqu'un est-il dans la joie? Alors qu'il ne garde pas nécessairement la joie pour lui-même, qu'il chante des cantiques, des psaumes. Alors, encore une fois, quelque chose de très fondamental, de très élémentaire. Considérez-vous comme quelqu'un en première année, un chrétien de première année. Vous retournez à la première année et regardez toutes les différentes croyances de base, les choses élémentaires qu'on doit faire. Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade? Encore une fois, des choses élémentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joyeux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Voilà ce que Dieu nous demande. Alors, rappelez-vous encore une fois. On regarde le livre et on le met en pratique. Ou on regarde le livre dans le miroir, on voit les choses, puis on se retourne de bord, on s'en va. Alors qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et ça va arriver. Et je ne parle pas ici de la première résurrection. Parfois, peut-être, oui, ça peut signifier cela, parce que vous ne pouvez pas avoir la foi absolue que Dieu va vous guérir à chaque fois. Et une raison pour cela, c'est que si ce n'est pas l'intention, le but que Dieu a de vous guérir, est-ce que vous devez, ce en quoi vous devez avoir foi absolument, c'est que ce qui va se passer, c'est exactement selon la volonté de Dieu. Et parfois, ce que les gens disent, c'est que j'ai une foi absolue que Dieu va guider les mains du chirurgien. Non, ce n'est pas ça. Vous venez d'insérer, de mettre quelque chose, d'additionner quelque chose ici. Vous avez la foi absolue que Dieu va sauver le malade. Et il y a un problème en ce qui concerne la guérison parfois. Jetons un coup d'œil sur le verset 16 ici, qui est inséré. Alors, c'est un point important, frères et sœurs, et j'espère que nous allons bien le comprendre. Vous remarquez que nous parlons toujours de la guérison ici. Alors, jetons un coup d'œil sur ce qui est dit ici, au verset 16. verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alors, les catholiques regardent ça, puis ils disent, ça, c'est ce qu'on fait quand que les gens confessent leurs péchés dans le confessionnal. Il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et ça ne signifie pas qu'on s'en va partout alentour, puis on va commencer à confesser nos péchés à tout le monde. Si vous regardez le contexte, ça veut dire que si vous avez des péchés que vous avez commis à l'endroit de certaines personnes, rendez-vous vers ces personnes-là. Et là, confessez vos péchés. À ce moment-là, vous n'avez pas à aller jusqu'à Matthieu 18, 15 et les autres versets. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Si les gens de l'Église vont confesser leurs péchés alors qu'ils ont causé du tort à une personne et à l'autre, ce qui est absolument extraordinaire et merveilleux pour les gens qui ont l'amour fraternel et l'amour de Dieu en eux, et qu'ils savent, en le faisant, qu'il y a toujours une attitude de pardon et de miséricorde à travers toute l'Église, et que lorsqu'ils vont confesser leur faute, ils vont être accueillis. Ils vont être accueillis. Parce qu'il est dit, « Oh, on ne doit pas rien garder contre notre frère et notre sœur. » Autrement dit, on ne doit pas lui en vouloir. Il n'est pas question pour moi que je refuse de lui pardonner, sinon c'est moi qui vais être condamné. Alors, cela va tout simplement entraîner la possibilité pour les gens de croître davantage et de dire plus facilement « je regrette ». Je regrette. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et si on regarde au verset suivant, voilà un autre point intéressant. « Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, on revient à la guérison ici. Mais vous êtes, et vous demeurez quand même dans le sujet de la prière. Lisez le restant du verset. Oui. Arrêtons-nous quand même un moment, là, et permettez que je fasse un commentaire. Si le peuple de Dieu n'a pas de rancune dans l'Église, et qu'il y ait un esprit authentique d'amour, de miséricorde, de gentillesse, autrement dit, une attitude de douceur les uns envers les autres, vous verrez davantage de guérison. Alors, c'est une quelque chose qui est vraiment étonnante. Vous allez voir davantage de guérison, tout simplement parce que l'Église va être vraiment plus près de Dieu. Parce qu'à toutes les fois que nous obéissions à Dieu dans ce qu'il nous demande, nous nous approchons de lui. Encore une fois, des connaissances de base. Et parce que, en fin de compte, tout le monde peut tomber malade. Tôt ou tard, certains plus souvent que d'autres, certains occasionnellement, certains plus sérieusement que d'autres aussi. Ces corps dans lesquels nous nous traînons à la fin de 6000 ans de dégénérescence tombent malades. Nous subissons des maladies, des souffrances, et ce n'est pas toujours possible d'être capable de découvrir exactement d'où cela provient. Et en fin de compte, après avoir regardé toutes les choses, c'est une question, encore une fois, d'une foi élémentaire chrétienne, nous voulons devenir mieux. Comment faisons-nous pour être mieux, pour guérir? Alors, vous appelez les anciens. Vous priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais il y a un autre point, encore une fois, qui suit tout ça. Si nous devons prier, il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est que si nous devons prier beaucoup, il faut que nous sachions que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, nous en sommes rendus maintenant dans ce verset à parler de justice. Et tout le monde sait de quoi il s'agit ici. Cela signifie que nous sommes une Église qui obéit à Dieu. Et lorsque nous nous trompons et que nous glissons, que nous dérapons, nous nous confessons et nous disons « Je regrette, c'est pas ce que je voulais faire, je te demande pardon. » Et cela vis-à-vis tout le monde, sans aucune exception de personne, pas de favoritisme. L'amour de Dieu est partout pareil en chacun. Nous devons agir de la même façon avec tout le monde. Et cela est vrai envers qui que ce soit à travers le monde entier, car il n'y a ni changement ni ombre de variation en nous également, parce que nous sommes aussi le reflet du Père, chez lequel nous ne retrouvons pas ombre de variation non plus. Est-ce que ça a un certain sens pour vous, frères et sœurs? Ici, on parle de prière fervente qui vient profondément du cœur. Pas le genre de prière paresseuse et fatiguée qui peut arriver un soir et dire « je pense que je vais tout simplement m'étendre. Et puis, en fin de compte, je pense que je vais tout simplement me coucher, dormir et puis arrêter ma prière. Pas ce genre de prière-là, mais une prière efficace et fervente. Comme c'est dit ici, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a déjà longtemps, je me suis rendu compte que nous pouvions nous présenter devant Dieu avec plus ou moins d'impact. Si l'on compare cela à la boxe, vous pouviez vous présenter devant lui soit comme un poids plume dans la justice, soit comme un poids léger, ou comme un poids moyen, ou mi-moyen, ou mi-lourd, ou lourd, ou même super lourd. Vous pouvez vous présenter devant Dieu en tant que poids plume ou super lourd, ou n'importe quelle catégorie entre les deux. Votre justice, parmi d'autres choses, va déterminer le degré d'écoute de Dieu. Quelle efficacité a votre prière? Avec quelle foi et quelle ferveur elle est faite? Nous avons vu, constaté des guérisons. Et nous en voulons aussi davantage. Il y en a un à l'extérieur qui il veut tellement, tellement des guérisons qu'il s'est organisé pour ajouter la guérison à son évangile. La guérison ne va pas dans l'évangile. Même les presbytériens savent ça. En fait, la grande majorité des gens dans le monde n'iront même pas mettre la guérison avec l'évangile. Les guérisons arrivent et se produisent parallèlement à la prédication de l'Évangile. La même chose avec la connaissance de Jésus-Christ. C'est le genre de choses qui se fait parallèlement à la prédication de l'Évangile. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, vous n'avez pas besoin d'être parfait. La justice n'est pas l'équivalent d'être parfait. Et c'est pourquoi le verset 17 poursuit la même idée que celle du verset 16. Assurez-vous de bien saisir ce point-là. L'esprit de Jacques ne vagabonde pas ici pour dire « Je crois que je vais parler d'Élie maintenant. » Alors, soyez attentifs là, au moment où nous allons conclure le sermon. Élie était un homme de la même nature que nous. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Élie commettait aussi des péchés. C'est important de réaliser ça, surtout à cause de ce que nous allons lire. Mais regardez pas en bas tout de suite. Si vous vous souvenez du texte, bon, mais c'est correct. Élie avait péché. Élie avait une mauvaise attitude. Il avait voulu abandonner. Et en fait, il voulait mourir. Il avait des faiblesses. Je me souviens un jour que M. Armstrong m'avait dit, « Dave, j'ai des faiblesses. Élie avait des passions. Moi aussi, j'ai des passions. Moi aussi, j'ai des faiblesses. » Et il me disait ça dans le contexte de quelqu'un qui l'accusait à ce moment-là. Mais il poursuivait, il disait, c'est absolument ridicule les choses qu'on dit contre moi. Mais j'ai déjà fait des fautes, des erreurs. Et lui aussi a fait des erreurs comme ça. Et pourtant, c'était un grand serviteur de Dieu. Et malgré tout, cet homme, avec ses faiblesses et ses péchés, Élie n'était pas parfait, ni même proche de la perfection. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Avec instance. Un seul homme, là, ici. Un homme juste. Savez-vous quoi? Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors, j'ai jamais vu de montagne se déplacer et tomber dans l'océan. Christ a dit que si vous aviez la foi, gros comme un grain de sénevé, et que vous disiez à cette montagne-là de se jeter dans la mer, c'est ce qu'elle ferait. Mais moi, je crois que ce serait rien, ça, comparé à ce que nous venons de lire. Une prière unique de la part d'un homme qui péchait de temps à autre, qui avait des passions lui aussi, qui avait fait des erreurs, et cela a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Ensuite, il avait prié de nouveau, et la pluie avait recommencé à tomber. Bien entendu, cela faisait partie à cette époque-là aussi du grand plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui avait été fait tout simplement par pure fantaisie. Là. Et en fin de compte, frères et sœurs, nous arrivons maintenant aux 2 derniers versets. Et on peut se dire jusqu'à quel point cela s'applique à cette époque-ci. D'abord, parmi nous, et ensuite, comment cela s'applique à nos frères et nos sœurs ailleurs, dans les autres groupes. Et cela dans la mesure où nous pouvons le faire, sans avoir de propre justice ou même être accusateurs. Mes frères, Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre, quelqu'un de converti, l'y ramène. Alors, on ne parle pas ici de convertir quelqu'un du monde. Il y a des gens dans le monde qui regardent ce verset-là et disent il faut convertir des gens. En fait, le contexte prouve le contraire de ça. Comme on dit, c'est écrit si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. On parle ici des gens qui sont déjà dans la vérité et qui sont en train de la perdre. Comme on dit, vous les frères et les sœurs, des gens qui sont déjà convertis, des membres de l'Église qui sont en train de glisser, de s'éloigner de la vérité, et que quelqu'un, à un moment donné, les ramène vers cette vérité. Et il est important que nous comprenions comme il faut ce qui se passe ici. D'abord, que c'est une chose qui peut arriver, et ce que nous pouvons faire à ce sujet. Alors, voici ce qui se passe. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, alors on vient d'établir là, que ce n'est pas, on ne parle pas de gens qui sont dans le monde. On ne parle pas d'aller dans le monde, encore une fois, ici. On ne parle pas d'aller témoigner Jésus, là. Ça ne parle pas de ça du tout. Mais si vous êtes sage par les Écritures, parce que la parole de Dieu est fortement implantée en vous, et que vous lisez beaucoup ce livre, ce qui a pour conséquence de renforcer l'Esprit de Dieu, qui à son tour renforce le livre lui-même, alors vous pourrez ramener un pécheur de la voie où il s'est égaré. De quoi la Bible parle-t-elle ici au juste? Ça peut parler du péché, ça peut être aussi une question de s'éloigner de la vérité. De toute façon, vous allez, comme il dit, sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Alors, on peut se demander, les péchés de qui seront couverts? Alors, l'Épître n'en parle pas. Et c'est fait de façon délibérée. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que, d'abord, vous allez couvrir les péchés du pécheur et vous couvrirez vos propres péchés aussi. Il est très important que nous prenions soin les uns des autres aux yeux de Dieu. Et je suppose que si vous allez ramener une personne, nous pourrions donner un sermon complet sur la façon de faire une chose comme ça. Simplement parce que si vous le faites de la mauvaise manière, non seulement vous ne les ramènerez pas, mais vous allez les tourner contre vous. Ça ne vous permettra pas d'accomplir quoi que ce soit. Alors, rendu ici maintenant, frères et sœurs, j'aimerais conclure pour dire, en disant que c'est le genre de choses auxquelles nous devons penser au fur et à mesure que l'œuvre se développe et avance. Nous devons demeurer dans les choses de base. Nous ne voulons pas oublier. Nous voulons nous rappeler les choses qui nous rendent uniques et distincts du monde. Nous devons nous rappeler qu'il existe l'ABC, même s'il est plaisant de parler de l'autre extrémité de l'alphabet et de parler des X, Y, Z et des 144 000 ou du reste qui revient et des autres prophéties. Je sais qu'il y a des gens qui attendent après le sermon sur le roi du Midi. Faites-moi confiance, ça s'en vient. Le sermon est pour bientôt et nous en aurons bien d'autres aussi excitants les uns que les autres sur toutes sortes de sujets. Mais vous devez vous souvenir que ce ne sont pas ces choses qui vont vous conduire dans le royaume. Ce sont les choses que nous avons vues aujourd'hui. Si vous avez toute la connaissance, mais que vous n'avez pas l'amour, alors vous n'êtes rien. On ne serait qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Rappelons-nous donc ce grand message alors que nous entrons dans cette nouvelle année. Rappelons-nous l'important message du livre de Jacques.